Merci beaucoup, Michael. On va faire comme ce matin, on va enchaîner directement, si tout va bien techniquement, avec la présentation de Denis. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Pas forcément. Ah si, on le voit, non? Il n'est plus? Bon, je vais le présenter en attendant. Il n'entend pas, mais du coup... Alors, Denis Bourguet est chercheur à l'INRA, dans l'UMR, Centre de biologie pour la gestion des populations, à Montpellier. Et donc, il est chercheur en écologie et biologie évolutive. Il a co-fondé en 2017 avec Thomas Guillemot et Benoît Facon le projet Peer Community In. Depuis 2011, il mène une double activité d'expertise gestion de la recherche, entre autres membre de la section 29 du comité national du CNRS et du Haut Conseil des biotechnologies et de la production de connaissances essentiellement sur la biologie évolutive de la pyrale du maïs. Voilà, vous savez tout, j'espère que du coup on va le retrouver et qu'il va pouvoir démarrer.
Peut-être. Je suis là, on va essayer, ouais.
Du coup, j'en ai profité pour faire une petite, faire ta présentation, te présenter avant que tu puisses démarrer la...
Merci, Audi.
Je t'en prie, vas-y, si ça fonctionne. On t'entend bien, en tout cas.
Vous m'entendez bien, le PowerPoint va arriver, voilà. Merci, voilà. Désolé de pouvoir être présent physiquement. Merci à Odile et Stéphane pour cette invitation. Stéphane ou Odile, Odile ou Stéphane, si ça fonctionne parfaitement, si. Donc, avant de vous présenter le projet en lui-même, donc c'est Peer Community, c'est un moyen simple de valoriser les papiers, donc à partir de review, des papiers qui sont non publiés. Vous allez voir. Donc, avant, on fait généralement quelques diapositives sur le système de publication. Michael en a parlé un peu, donc pour creuser un peu dans cette voie-là. On rappelle généralement quelle est la valeur des articles scientifiques. Pourquoi finalement on publie des articles scientifiques? Ça paraît évident, mais c'est souvent bon de le rappeler, si on souhaite rendre la science publique. C'est pour assurer la qualité de cette science que l'on fait. Ça définit l'antériorité des résultats, ça rend les articles trouvables, donc sur Internet, et ça les archive. Alors c'est un système qui est assez inefficace, parce que souvent, il y a un système de soumission par les auteurs et de projet par les revues en cascade, et un article, vous le savez tous, peut prendre plusieurs mois, plusieurs années même avant d'avoir la publication. C'est un processus long et assez efficace. En plus, c'est un processus généralement qui n'est pas transparent, c'est-à-dire que les évaluations, les décisions prises éditoriales ne sont pas publiées. Et généralement, donc, les lecteurs ne peuvent pas bien savoir sur quelle base a été accepté un papier, ce qui pose souvent problème. Parallèlement, on voit que l'évolution des nouveaux systèmes en open access est un système assez vicieux, parce que chaque chercheur, en tant qu'individu, a tout intérêt à publier le plus possible de papiers. Et les publishers, eux, les éditeurs privés, ont tout intérêt à publier eux-mêmes le plus de papiers possible. Et en fait, ça fait une espèce de conjonction d'intérêts qui n'est pas bénéfique pour la qualité de la science.
Denis, juste, je t'interromps. Est-ce que tu peux éventuellement réduire un tout petit peu le rythme de ton débit? Peut-être que ça sera un peu moins haché que pour le moment.
Sans aucun problème. Alors, c'est un système qui est extrêmement cher donc, à nous, collectivement. On a un marché qui est détenu par 6 grands éditeurs privés qui publient plus de 50% de la publication scientifique. Donc, c'est ce que je mets. Ils ont jusqu'à pratiquement 40% du marché. En France, ce système d'édition nous coûte plus de 100 millions d'euros. Et à l'échelle mondiale, c'est 9 milliards, 3 millions d'articles, soit un coût par article d'environ 3 000 euros. Stéphane, ça va ce rythme-là?
C'est pas top. Est-ce que tu peux, je sais pas, est-ce que tu peux couper la vidéo ou, mais là, tu vas plus avoir ton retour sur ta...
Est-ce que ça va mieux là?
Ça a l'air.
On va voir. Je vais essayer de faire la suite. Donc, si l'on regarde les profits de ces éditeurs privés, je vous ai mis ici un diagramme sur lequel vous voyez en vert les chiffres d'affaires des publishers. Donc, vous voyez, par exemple, si on prend le plus gros, Elsevier, vous avez 3 milliards de chiffres d'affaires et vous avez un profit moyen qui est d'un milliard d'euros. Et si on prend les 6 grands publishers, on arrive à un profit moyen de 40%. Ça a l'air d'être mauvais en son aussi. Ça passe.
Alors, ta voix passe, mais il y a des parasites ou il y a de l'écho. Donc, je ne sais pas si tu utilises une souris ou quelque chose en parallèle.
Est-ce que là, c'est mieux ou pas, si je diminue mon son?
Ouais, pour le moment, oui.
Non.
Si, si, c'est bon, oui.
Vous m'entendez ou pas?
Oui.
Allô? Michael, tu m'entends ou pas? D'accord. Est-ce que ça fonctionne là? Ça va beaucoup mieux ou pas? D'accord. Ok, ça marche. Donc ce que vous voyez ici sur la droite, c'est ce que font ces éditeurs privés en termes de, à partir de ces profils-là, et ce que vous voyez au fil du temps, 2011, 2012 jusqu'à 2015, c'est que le réinvestissement en bleu reste à peu près constant et marginal, et en rouge, vous voyez l'augmentation, et donc les bénéfices qu'ils font vont majoritairement aux actionnaires. Et donc pour vous donner une idée ici, j'ai mis en bas les profits qui sont réalisés par Elsevier comparés à la Bank of America, Toyota, Walmart, et c'est donc des marges qui sont démesurées. Et ça scandalise d'autant plus le monde de la recherche, et j'imagine le monde de la publication, beaucoup d'entre vous, parce qu'effectivement, que ce soit les chercheurs ou les agents impliqués dans le monde de l'édition, on fait beaucoup de choses ou presse, c'est-à-dire on écrit, on évalue, on édite, et on formate les articles. Donc l'idée de PCI, c'est bien de participer à la réappropriation du système de publication. Si ça veut bien passer à la diapo suivante. Donc si on regarde bien, le système d'édition sur Internet est vraiment pas cher, et donc c'est là où on peut se le réapproprier. Si on prend par exemple une archive ouverte comme Archive, c'est 800 000 dollars au total par an pour 120 000 articles publiés, soit 7 dollars par article. Ensuite, il y a des moyens à disposition, par exemple tels que OJS, qui permet donc l'évaluation des articles. Et l'autre chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est l'augmentation très impressionnante du dépôt de préprint par les auteurs. Si on prend le monde de la biologie, duquel je viens, si on regarde le nombre de manuscrits déposés dans les archives ouvertes de 2007, ici complètement à gauche, à 2019, on voit quelque chose de stationnaire jusque dans les années, jusqu'à 5 ans en arrière, on va dire. Et ensuite, notamment lié à l'explosion de BioArchive, on voit une augmentation exponentielle du nombre de dépôts. On est aujourd'hui à peu près à 2000 dépôts de manuscrits par an. Donc c'est BioArchive, mais c'est aussi Archive, Zenodo, HAL que vous connaissez. Donc j'en viens au projet PCI, et le but c'est de créer des communautés de chercheurs qui évaluent à partir donc de peer review, d'évaluation par les pairs, et qui recommandent, c'est-à-dire qui mettent en avant des articles dans leur champ disciplinaire. Donc on a monté, vous allez voir, PCI Écologie, PCI Evolutionary Biology, Paléontologie, et donc l'idée c'est de décliner ces PCI dans autant de disciplines, voire de questions scientifiques différentes. L'idée, c'est de recommander donc des articles, des préprints qui sont déposés dans des archives ouvertes, BioArchive, Archive, Zenodo, HAL. Et la caractéristique, c'est que ce système est complètement gratuit, que ce soit pour les auteurs ou pour les lecteurs. Alors voici comment ça marche, juste un tout petit peu de temps là-dessus pour avoir. Donc les auteurs, une fois qu'ils ont fini de rédiger un manuscrit, plutôt que le soumettre pour publication à une revue, ils vont le déposer en première instance dans un serveur de préprint, donc voilà, Archive, BioArchive ou autre. Une fois déposé dans ce serveur de préprint, ils vont se tourner vers la PCI. Donc si c'est un manuscrit, c'est le titre de l'article, les auteurs et le lien, l'URL donnant vers l'article déposé en préprint. Et ils vont suggérer ensuite des éditeurs pour prendre en charge l'évaluation de leur papier. Si l'un de ces éditeurs contactés est intéressé, il va prendre en charge le papier, c'est l'étape 3, et il va organiser un système, donc toute l'évaluation du peer review. Et pour ce faire, il va avoir besoin donc de trouver au minimum deux reviewers, deux évaluateurs, qui vont faire une peer review, et sur la base de ces deux évaluations, voire trois, voire quatre, il va prendre une décision éditoriale qui va être de rejeter le papier, de demander des révisions aux auteurs ou d'accepter le papier, c'est-à-dire de le recommander à la communauté. Dans le cas où il y a une décision de recommandation, donc pardon, juste avant, il peut y avoir plusieurs allers-retours entre les auteurs et le recommandeur, c'est-à-dire nous, l'éditeur, pour que les versions révisées arrivent au standard adéquat pour aller à la recommandation. Donc dans le cas d'une recommandation, les auteurs, on leur demande de mettre une version finale toujours sur le serveur de préprint qui devient une citation valide, une référence valide, qui peut être ensuite soumise à un journal, on pourra en discuter. Et ce que fait donc l'éditeur, c'est qu'il va rédiger une recommandation que nous, on va publier sur le site de Peer Community In. Donc pour un article, il va y avoir la version finale, formatée, qui est disponible gratuitement pour tous les auteurs. Et ensuite, il y a publication d'une recommandation qui explique pourquoi cet article est recommandé, et là encore, disponible gratuitement pour l'ensemble des lecteurs. Donc l'ensemble du processus, que ce soit pour les auteurs ou les lecteurs, est gratuit. Donc voici un article qui est formaté pour Peer Community in Evolutionary Biology. On a également, donc c'est l'originalité du processus, je reviens ici, c'est qu'un article qui est recommandé par PCI peut être encore soumis après coup à un journal, puisqu'on ne publie pas, PCI ne publie pas formellement un article. Il publie la recommandation de l'article et il publie également les reviews associées à l'article. Donc les auteurs, une fois la recommandation obtenue, peuvent très bien le soumettre à des journaux. Et on a contacté l'ensemble des éditeurs en chef de ces journaux-là, qui sont en évolution en écologie, puisque c'est les premières PCI que l'on a montées. Et donc ces éditeurs en chef, qui pour certains participent à PCI, ont déclaré qu'ils étaient tout à fait d'accord pour recevoir des articles recommandés par PCI, de regarder les reviews et les recommandations, et potentiellement de s'en satisfaire pour accepter les articles donc, dans leurs journaux. Alors en janvier 2017, on a lancé Peer Community in Evolutionary Biology, suivi ensuite un an plus tard par PCI Paléontologie et Écologie. On a récemment ouvert PCI Animal Science et Entomologie. Et donc jusqu'à ce jour, on a reçu donc 170 soumissions, c'est en train d'augmenter donc, progressivement, et on a publié 72 recommandations de ces preprints. On a déjà 4 autres PCI qui sont en cours de validation et en cours de montage, PCI Genomics, PCI Registered Report, Circuit Neuroscience, Forest and Wood Sciences, et d'autres donc, projets de PCI sont à l'étude, donc des Peer Community in Mathematical and Computational Biology, Virologie, Écotoxicologie et Data Papers. Donc on est soutenu par les sociétés savantes. Là, vous avez la plupart des sociétés savantes donc européennes ou américaines en évolution, en biologie évolutive. C'était important d'avoir leur soutien. Des soutiens également institutionnels, parce que même si le système coûte peu cher, il y a quelques coûts associés, on pourra en parler si vous voulez, mais c'est couvert aussi bien par donc des soutiens de Sorbonne Université, d'INRA et d'autres universités qui nous soutiennent, plus quelques institutions comme les LabEx. Tout ça est de l'institution publique et restera publique. On a également convaincu les directeurs d'écoles doctorales qui fait que des doctorants de ces écoles doctorales peuvent soutenir leur thèse en se prévalant donc d'articles recommandés par PCI au même titre que des articles publiés dans des journaux à comité de lecture. Et enfin, on est reconnu par des comités d'évaluation, que ce soit en Finlande, en Norvège ou progressivement en France également, que ce soit par des sections du CNRS, par les universités, par donc, différents organismes. Avec l'idée qu'à chaque fois, ces comités d'évaluation reconnaissent les préprints recommandés par PCI au même titre qu'un article recommandé, donc enfin publié dans des comités, dans des journaux à comité de lecture. Voilà, j'en reste là pour laisser la place à la discussion. J'espère que vous avez pu m'écouter. Merci. Michael, je ne t'entends pas. Il n'y a pas le micro.
Voilà, ça me plaît.
Avec le micro, c'est un peu compliqué sur le son, mais on va essayer de s'en sortir. Merci beaucoup à tous les deux de ces deux interventions. Une première question dans la salle? Non? Allez. Ça y est.
Alors, juste un premier... Oui, mais il ne va pas nous entendre.
Il ne va pas nous entendre?
Il va falloir que je retranscrive la question, je pense.
Vas-y.
D'accord. Emmanuel Morlock, ma question porte un peu pour les deux intervenants sur la place des SHS ou l'adaptabilité du modèle au SHS. Par exemple, pour la plateforme PubliScience, je n'ai pas bien compris comment un secrétariat de rédaction qui doit faire des phases de réécriture soumises aux auteurs pouvait s'insérer. Et pour l'autre plateforme, PCI, s'il y a déjà des idées de communautés en SHS qui seraient plus à même d'entrer plus rapidement dans la démarche de dépôt de préprint, très vite, comme ça.
Voilà.
Ok. Donc, en fait, la façon dont Public Science est construit, et surtout la plateforme, c'est donc en intégrant tous ces outils qui sont utilisés en biologie, en mathématiques et tout ça, ça n'exclut pas du tout les SHS, du coup. Parce que les outils, en tout cas pour l'écriture de papier et l'intégration de bibliographie, sont déjà présents. Ensuite, pour tout ce qui est intervention d'un secrétariat d'édition, ça rentre dans le processus de peer reviewing, en fait. Le secrétariat d'édition peut faire, grâce aux outils de peer reviewing, ces travaux de réécriture. Donc, soit de manière ouverte, soit de manière cachée. Je n'ai pas montré là. On essaie de promouvoir le fait que, que cette phase de peer reviewing ou de modification d'édition soit faite de manière ouverte, mais vous pouvez le faire aussi de manière fermée. Et donc, voilà. J'espère que ça répondait à la question. Denis ?
Oui, pour nous, pour PCI, c'est de la même manière. On pense que la plateforme PCI est tout à fait adaptée, c'est-à-dire à ce processus d'évaluation, de dépôt de préprint. On a eu des contacts de la part d'anthropologues, de la part de gens qui travaillent en sciences participatives, hein, donc qui étaient intéressés. À l'INRA, puisque je travaille à l'INRA, il y a aussi des gens qui sont dans des départements qui sont liés au SHS et qui ont été intéressés. Maintenant, après, c'est très dépendant. On sent bien dans les communautés de leur familiarité avec les préprints, qui n'est pas forcément la même suivant les communautés. Et c'est là où ça rend potentiellement assez difficile l'adhésion. Je pense que dans certains domaines, et c'est pas vrai que dans SHS, je pense qu'il y a de la variabilité de fait. Et nous, en biologie, on sent, par exemple, en paléontologie, c'est beaucoup plus dur de démarrer. Il y a une familiarité beaucoup bien moindre, en tout cas pour le dépôt de préprint. Et comme c'est un passage obligé pour PCI, ce dépôt de préprint, ça rend les choses parfois plus compliquées.
Une autre question ?
Séverine Guiton, donc de l'EHESS. Vous parlez de peer reviewing ouvert. Il faut comprendre que c'est anonyme. Et si c'est anonyme, comment vous faites pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas des guéguerres entre des chercheurs qui critiqueraient davantage un article par rapport à leur positionnement ou,
Alors, tout comme le fait qu'on laisse le choix aux auteurs soumettant un article de faire appel à un peer reviewing ouvert ou fermé, on laisse le choix aux reviewers de commenter de manière anonyme ou non, en essayant de motiver le non-anonymat, avec dans l'idée que l'anonymat reste un outil qui peut, dans certains cas, être indispensable, notamment dans les cas que vous mentionnez. Mais on met en place, en fait, des outils de levée d'anonymat dans les cas d'abus, pour éviter des situations désagréables avec la diffamation ou autre. Après, en tout cas dans les débuts du lancement de la plateforme, on imagine qu'on va sans doute motiver essentiellement des gens qui sont investis, sinon un peu militants sur l'open science, et que de démarrer la plateforme avec une note un peu positive et constructive permettra de donner une ambiance, un niveau de base qui n'ira pas au bashing.
Alors pour PCI, c'est un peu de la même manière, c'est-à-dire que les référés peuvent rester anonymes. Le fait de publier les reviews, ça met une pression assez forte sur le fait de faire un travail de qualité, parce que même si les référés restent anonymes, leur travail, donc leur évaluation est publiée, et ça, on pense vraiment que ça donne une plus-value. L'autre chose, comme garde-fou, ce que l'on a, c'est que toute décision qui est prise par l'éditeur sur la base de référés doit être validée par le managing board, qui s'assure justement qu'il n'y a rien de diffamatoire et que les revues sont, les évaluations sont de qualité. Donc ça, c'est un point important. Et les éditeurs, eux, sont validés, enfin leur inscription dans les plateformes est validée par le managing board, qui s'assure que ce sont des gens compétents dans leur domaine avec suffisamment d'expérience pour jouer le rôle d'évaluateur et d'éditeur.
Et du coup, le managing board, il est composé comment ?
Alors, le managing board, au tout départ, il y a une première base par des par des fondateurs qui vont fonder une PCI, une nouvelle PCI, par exemple, dans un nouveau domaine, et qui vont s'adjoindre à un groupe de 20 à 50 personnes compétentes dans le domaine pour fonder la PCI à partir duquel ils vont mettre en place un managing board de 10-15 personnes. Et la validation de cette nouvelle PCI se fait par les membres de l'association PCI, PCI étant une association loi 1901, et devient membre de l'association tous les membres des managing boards des PCI déjà existantes. Donc tout ça sont des garde-fous pour que ce ne soit pas simplement quelqu'un qui dise « moi je vais fonder une nouvelle PCI » sans qu'on puisse vérifier un minimum la qualité. Donc on demande à ce que les recherches soient faites à l'international, qu'il y ait un bon équilibre justement à l'international des personnes impliquées dans les premiers recommandeurs, donc qu'ils ont une bonne dynamique scientifique, de s'assurer également qu'il y ait un bon sex ratio homme-femme, etc., etc. Donc c'est ce que regardent les membres de l'association pour valider une nouvelle PCI.
Moi j'ai une autre question. Odile ? Carole Leclerc, MMSA, je travaille dans une communauté d'anthropologues et je souhaiterais te poser une question sur la structure de PubliScience, qui est une SCI, confirmée, SCCI. J'aurais aimé savoir quels sont les partenaires, j'étais un peu absente sur ce coup-là, la constitution de votre SCCI, quelle est la part du capital? Et est-ce que les 35% de chercheurs qui sont dans cette SCCI sont-ils actionnaires?
C'est une SCIC, SIC.
Société collective d'intérêt collectif, société civile d'intérêt collectif.
Société donc, coopérative d'intérêt collectif.
Voilà, quelle est la part de chaque actionnaire?
Ça, c'est une chose à décider dans les statuts de la coopérative. Ça va beaucoup, je pense, dépendre des institutions qu'on va réussir à mobiliser pour rentrer au capital de la coopérative potentiellement.
En fait, la question qui est intéressante autour de la structure juridique, excuse-moi, c'est dans la perspective de la science ouverte, est-ce que c'est une structure juridique? Enfin, c'est ma question à moi, hein, du coup. Est-ce que c'est une structure juridique qui garantit, entre guillemets, une non-possibilité de rachat par un grand organisme?
Oui, parce que de toute façon, quelle que soit la proportion d'investissement dans le capital, si c'était ça votre question, c'est un homme, une voix, de toute façon. Enfin, un homme. Un homme, une femme, une voix. Donc, même si on a une institution qui décide de mettre une part énorme du capital, elle n'aura pas...
C'est pas tout à fait ça, parce que y a des SCIC qui ont été proposés au CNRS, par exemple, en tant que partenaire tutelle et preneur de part dans la SCIC. Moi, ce que je trouve un peu, sur lequel je combats quand même, c'est que je trouve pas très déontologique que des chercheurs soient actionnaires de cette SCIC.
Et pour quelle
raison ? Parce que, de toutes les manières, il y a du profit dans une SCIC quand même.
Oui, là, la question, c'est d'écrire dans les statuts que les profits soient réinvestis pour conduire à la minimisation des coûts de publication. Donc, il n'y a pas de redistribution des profits.
Oui, bien pas sûr. Encore.
Mais ceci dit, actuellement, il y a des journaux qui proposent aussi d'avoir du peer reviewing rémunéré. C'est des choses qui se font aussi. Donc, c'est des choses qui sont réellement à discuter.
D'où ma question, est-ce que vous trouvez déontologique que des chercheurs, là j'ai vu 35% de chercheurs, vous allez être actionnaire de cette SCIC, que vous soyez intégré à ce projet?
Je trouve ça beaucoup moins problématique sur le plan déontologique que d'avoir des gens qui créent un journal et qui vont s'enrichir en imposant des APC en étant éditeur en chef de journal, ce qui se voit énormément depuis toute l'ouverture de l'open access et l'explosion des journaux qu'on peut qualifier de prédateurs ou non.
Ce sont des, là, on fait payer des API pour les plateformes qu'il y a derrière, la technologie.
Non, non, non. Il n'y a aucune plateforme Internet qui nécessite de payer 5000 euros pour publier un article.
Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, mais en tout cas, c'est une structure juridique qui est en cours de construction et où, en effet, il faut peut-être faire attention à un certain nombre de choses, mais ça dépend des statuts qui sont mis en place et de l'engagement de chacun des fondateurs dans ce système. Il me semble quand même qu'il peut y avoir des garde-fous aussi à l'intérieur des statuts. Une autre question sur les deux interventions qui... Je vois pas tout, en fait. Mon fil est trop grand. Ah, mais t'es caché, voilà.
Oui, c'est une question aussi sur la plateforme PubliScience. Vous avez dit que le système était fondé sur un calcul de la notoriété du chercheur et qu'il y avait une des objectifs, c'était de regarder l'impact d'un article sur la discipline dans un temps plus long. Alors, comment vous calculez ça? Quelles sont les métriques? Est-ce que vous pouvez ouvrir la boîte noire?
Alors, la première partie, je ne me souviens pas d'avoir dit ça, c'était pour la création des collections, cette première partie, pas centrée sur les chercheurs. C'était plutôt pour dire que si un tel, un petit peu comme Denis, tu m'entends Denis ou... Oui. Un peu comme Denis disait à l'instant avec les recommandeurs qui ont besoin d'avoir une certaine notoriété ou quoi, c'est d'essayer de motiver des gens qui ont une certaine reconnaissance à l'international dans un domaine pour la création de ces collections. Soit des chercheurs uniques qui prennent ce rôle d'éditeur, en gros, soit une institution qui va imprimer sa marque, sa ligne éditoriale sur cette collection d'articles. Donc ça, c'est une première chose. Pour la deuxième partie de la question, l'idée, c'est que... je montrais une espèce de web diagramme en haut à droite qui incluait des notions comme la reproductibilité, l'accessibilité des data et tout ça. Actuellement, quand un article est rétracté, il y a très très peu de publicité faite sur cette rétractation. Et donc il y a un article récent, je ne me souviens plus des auteurs, qui montre qu'un article rétracté continue à être cité pendant les 5 années suivantes dans la bibliographie. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'un article soit, s'il est cité, qu'on intègre à cette citation l'aspect positif ou négatif. Si je cite un article, parce que pour dire que cet article, les données ne sont pas reproductibles, ça n'a pas du tout la même valeur pour cet article et pour l'impact qu'il a sur un domaine que si cet article... est hautement reproductible dans la communauté. Et donc ça, c'est juste un index qu'on ajoute et qui est juste validé au fur et à mesure par les gens qui citent un article donné.
C'est ça, c'était ça ma question. C'est cette appréciation que c'est positif ou négatif, est-ce que c'est calculé automatiquement ou est-ce que c'est une appréciation manuelle qui est mise...
Là, actuellement, c'est plus parti sur du manuel. Mais on peut espérer un jour réussir à automatiser ça. Tout est encore en construction, donc tous les avis et suggestions sont les bienvenus.
Pour compléter, Mickaël, si tu coupes le micro, je ne sais pas si ça fait trop d'écho. Simplement pour dire que des plateformes alternatives, comme on est en train de monter, que ce soit PCI ou d'autres, l'idée, c'est bien de revenir à l'article lui-même et d'arrêter de se servir donc des journaux qui ont des impact facteurs comme étant des proxys. On a tous en tête donc cette utilisation des impact facteurs dans les comités d'évaluation comme étant voilà des proxys de la qualité d'un article et on sait à quel point ça peut être faux. Et l'avantage donc de la publication des reviews donc qui sont réalisées, d'en revenir à l'article et dans le cas de PCI d'avoir des recommandations qui expliquent pourquoi un article est recommandé, c'est bien pour en revenir à l'article et c'est lui-même ensuite on peut voir sa dynamique de citation. Par exemple, dans des outils comme Google Scholar, qui vont donner donc, une indication sur la qualité de l'article. Et surtout dans les comités d'évaluation, pour regarder vraiment la qualité de l'article et non pas des journaux là où ils sont publiés. Ça participe en tout cas à ça, et ça, moi, en tout cas, je pense que c'est une bonne évolution.
Oui, bonjour Mathilde Lefebvre. Je voulais juste savoir ce que recouvraient les coûts de publication, en fait. Parce que...
Dans le micro, sinon ils n'entendront pas.
Excusez-moi pour compléter cette question. Sur quelle base vous avez annoncé des coûts de soumission entre 500 et 700 euros à l'auteur ? Sur quelle base vous êtes parti pour tabler dans cette tranche-là ? Et du coup, effectivement, quels sont les coûts de vous, les coûts de votre côté de production que vous avez ?
Ça, c'est une estimation qui a été publiée récemment dans un article sur Piaget, je crois. Je ne sais plus si... sur Piaget, qui estime donc, entre les coûts de plateforme, les coûts de maintien, les coûts de développement, les équipes éditoriales, s'il y a des équipes éditoriales. Donc, c'est cet ensemble-là. Là, l'idée, c'est de placer un coût qui a été estimé sur un large nombre de journaux avec pour but de réussir à diminuer ce coût dans le cadre du fonctionnement d'une plateforme telle qu'on la développe. Donc pour le moment, on commence avec cette proposition de coût-là et ensuite essayer de le faire évoluer à la baisse. Il y a des coûts de développement, il y a des coûts de maintien des plateformes. Donc soit on arrive à avoir des institutions qui nous font l'hébergement, qui nous fournissent de l'aide technique et matérielle pour le maintien de la plateforme. Et dans ce cas-là, c'est autant d'argent à retirer des coûts de soumission et de traitement des articles. Soit il faut pouvoir assumer ces coûts d'une certaine façon. Et là, actuellement, on les assume nous-mêmes.
Justement, sur les questions de développement, aujourd'hui, vous fonctionnez avec quels collaborateurs internes ou externes ? Donc, vous avez parlé de stagiaires, vous avez remercié deux stagiaires à la fin. Est-ce que c'est vraiment eux qui ont fait le gros travail de création du dashboard, de retranscription ensuite j'avais une autre question sur à un moment donné, vous avez parlé de... que les données étaient transcrites ensuite en LaTeX, ou vous avez cité un autre éditeur de texte qui, j'ai pas retenu.
Alors, je vais commencer juste pour le développement de la plateforme. Donc on a eu un petit financement de la BPI qui doit, une fois qu'on retire tous les coûts d'hébergement, d'incubation de Publifactory, nous revenir à 6 ou 7 000 euros, je crois, sur un an. Sur lesquels on a payé donc nos deux stagiaires, sur lesquels on paye nos coûts machines, nos coûts serveurs actuels. La plateforme a été développée de zéro pendant les 6 premiers mois par Nicolas Héberlé uniquement, et puis depuis 6 mois avec l'aide de nos deux stagiaires. Donc ça, c'était pour la partie coûts de développement jusqu'à maintenant. L'autre partie de la question, c'était sur... Ah oui, sur l'éditeur. En fait, on a fait un éditeur simple qui avait la forme de ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et simplement, on convertit le résultat de cet éditeur en LaTeX pour pouvoir écrire de manière collaborative à la fois en LaTeX et avec cet éditeur simple qu'on appelle juste un Light Editor parce que... Mais c'est juste une solution qu'on a développée en interne. C'est pas quelque chose qui est accessible commercialement, si c'était la question. Qu'on a développé dans Publifactory.
D'accord. Et que vous avez l'intention éventuellement d'ouvrir à la communauté ou...
Bah, pour la distribution, donc Publifactory, c'est une société commerciale qui produit le software. Donc... La façon de rendre cette société viable, c'est de probablement vendre des licences d'utilisation de cette suite de logiciels à des particuliers, à des entreprises ou quoi, avec la possibilité de distribuer des licences gratuites pour toute initiative d'open publication gratuite. Tout comme on est allé... Nicolas est allé discuter avec Denis pour proposer justement nos outils dans le cadre de PCI. Voilà. À partir du moment où on reste dans un cadre d'open publication gratuite, on fournira des licences gratuites d'utilisation de la plateforme. Si c'était la question.
Oui, moi j'ai une question sur Peer Community In. Est-ce qu'il n'y a pas un grand nombre d'articles qui risquent de rester dans un trou noir et de ne jamais être lu ni évalué par personne ? Parce que peut-être qu'un article génial, tout le monde aura envie de le lire, mais un article moyen qui doit être amélioré, qui va se porter volontaire pour passer du temps et de l'énergie à jouer le rôle d'un éditeur, chercher des reviewers, gérer des échanges ? Quand on sait la difficulté à trouver des reviewers pour un article, alors que personne ne l'oblige à le faire, quoi. Donc j'ai du mal à croire que ça peut fonctionner.
Alors, complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que dans le principe de PCI, quand un article est soumis, il y a une suggestion donc, par les auteurs, qui peut être renforcée par les managing boards, d'éditeurs pour prendre en charge le papier. Si les éditeurs ne souhaitent pas prendre le papier parce qu'ils jugent que la qualité n'est pas bonne, en première instance, dans ces cas-là, ils ne le mettent pas en évaluation. Et si au bout de 20 jours, un papier n'a pas été pris, on contacte les auteurs, le managing board, pour leur dire que leur papier n'a pas été pris en charge, et dans ces cas-là, de se tourner vers d'autres, voilà, soit vers des journaux, vers d'autres plateformes pour évaluer leur papier. Donc on ne met pas d'obligation, je ne souhaite pas.
On a en partie entendu ta réponse, je pense. Ça a coupé, ça a été très haché. Donc on va espérer que si une autre question arrive.
Je ne vous entends pas, Michael, je ne sais pas si vous parlez. Donc je disais, je ne sais pas si tu l'entends, ce que je disais c'est que quand il y a un papier qui est soumis, ce qui va se passer c'est que là, si tu peux couper le micro, donc ce qui se passe c'est que les éditeurs qui sont suggérés ne sont pas dans l'obligation de prendre en charge le manuscrit, et donc il y a des manuscrits qui ne sont pas pris en charge parce que aucun des éditeurs sollicités souhaite mettre. Là, vous allez vraiment avoir faim. Donc, si aucun des éditeurs ne souhaite prendre le papier en charge, dans ces cas-là, les auteurs sont avertis qu'au bout de 20 jours, plus personne ne prend, voilà, n'a décidé de le prendre en évaluation. Dans ces cas-là, ils doivent se tourner vers soit des journaux, soit d'autres plateformes pour l'évaluation de leur article. Donc ça, ça évite d'être complètement embourbé par des manuscrits qui sont de mauvaise qualité, de chercher des référés pour des manuscrits où on sait que ça n'ira pas jusqu'à la recommandation.
Merci beaucoup, on a entendu cette fois, à peu près.
Je voudrais faire juste une courte réponse là-dessus aussi. Donc ce qu'on développe sur la plateforme, c'est un outil de suggestion basé sur la structure sémantique des articles que vous avez publiés ou quoi. Et donc quand un article est mis en public, donc passe du statut de brouillon au statut open peer reviewing sur la plateforme, l'article est digéré automatiquement et suggéré en lecture aux chercheurs qui ont un profil de recherche semblable. Et l'idée étant ensuite que quand on lit un article, si on a des retours à faire, je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir terriblement envie de faire un retour sur l'article et de ne pas avoir les outils ni la structure pour le faire de manière efficace. Et que du coup, ça rentre soit dans un contexte de micro-commentaires, comme on le montrait, soit de réellement faire une review complète de l'article. Ou tout simplement, comme disait Denis, quand on considère qu'un article ne mérite même pas d'être commenté ou quoi, de le laisser tomber. Ouais.
Merci beaucoup. On va clôturer à l'heure. C'est un truc de dingue. la séance de ce matin, je vous remercie beaucoup les intervenants, les questions dans la salle, votre attention. Et merci beaucoup, Denis, parce que c'est pas facile à distance. Donc voilà.
Merci à vous surtout pour votre patience.
Et puis juste, merci j'ai beaucoup. Encore le micro 5 minutes avant une minute avant de la donner à Stéphane. Juste dire à quel point j'étais contente d'être là aujourd'hui pour fêter quand même les 10 ans du réseau. Alors, ça ne fait pas tout à fait 10 ans que je suis avec vous, mais presque. 7, je crois. J'ai compté. Quand ? Je suis arrivée à Caen.
Ça en vaut 10.
Et à quel point c'est important de se retrouver, de partager, d'apprendre, d'être ensemble, de construire. Et Dieu, j'espère que ça va continuer encore. Moi, je veux bien continuer à venir, en fait. J'aime vraiment ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont pensé, à ceux qui le font vivre aujourd'hui, à vous qui êtes là de plus en plus nombreux chaque année. Et voilà, c'est un vrai bonheur. Donc, merci beaucoup.